Voilà, donc c'est Néhémie 8, versets 9 et 10 que je vous invite à ouvrir la parole donc à Néhémie. Et le titre de ce passage dans ma Bible, en tout cas, c'est « Invitation à la joie ». Esdras vient de lire le livre de la loi et tout le peuple pleurait. Il a lu le livre de la loi pendant des heures. Voilà. Et on en est donc à ce passage. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » La joie que donne l'Éternel est votre force. Amen. J'ai été saisi par ce texte pour commencer ma prédication, car le Seigneur nous convoque à la fête. Quand on dit que la joie que donne l'Éternel est notre force, c'est quand même très puissant, c'est le lien entre les deux qui est fait. Il est dit plusieurs fois, ne vous attristez pas dans ce texte, ne vous affligez donc pas. C'est répété. J'ai la force dans la joie que me donne le Seigneur. C'est comme s'il y avait un sceau sur nous, une marque qui nous était apposée à vie. Nous, le peuple de Dieu, nous avons cette marque, la marque de la joie. Cette joie qui nous est promise par notre Seigneur. Et cette joie, elle se manifeste notamment dans les repas qu'on peut partager ensemble. Dans Actes 2, verset 46, il est dit « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. » Je n'ai pas lu tout le verset, mais « Ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. » C'est comme si la joie, c'est le cas d'ailleurs, elle est constitutive de notre identité en Christ. L'amour est constitutif aussi de notre identité en Christ, mais la joie, on ne le dit peut-être pas assez souvent, elle est constitutive de notre identité en Christ. Alors là, j'ai planté le décor et j'avais un mot quand j'étais dans la louange tout à l'heure, j'avais le mot jubilatoire. Parce que le Seigneur, c'est comme si le Seigneur voulait nous entraîner dans sa joie, dans sa danse, voilà. Et que c'est un moment particulier que nous vivons ce matin, notamment à partir de ce texte Néhémie 8, versets 9 à 12. Ne vous attristez pas. Alors juste pour faire un petit peu pour comprendre d'où on vient, de quoi on parle. La joie, quand vous regardez dans le dictionnaire biblique, la joie, ça veut dire, c'est une émotion agréable et profonde. C'est une émotion agréable et profonde. Et pour aller un petit peu plus loin, le terme grec « chara » désigne une joie intense. Or, il se trouve que « chara » est de la même famille que le mot « charis », qui veut dire « la grâce ».« Chara » et « charis ». Ça veut dire que la joie est la fille de la grâce. C'est donc de la même famille. Nous sommes environnés de joie sous l'égide de la grâce. Et évidemment, nous grandissons sous la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous permet d'être dans la joie. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Et je voudrais parler évidemment des combats qui sont les nôtres ou qui sont ceux de nos proches et qui parfois nous font, nous empêchent d'entrer dans cette joie. En tout cas, c'est un frein, ces combats sont un frein lorsqu'il s'agit d'entrer dans la joie du Seigneur. Et je voudrais parler de quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est C.S. Lewis. qui a vécu donc au XXe siècle, qui était ce théologien, écrivain, et un théologien très, très brillant. Parfois, il est difficile à suivre, mais il dit des choses étonnantes. En tout cas, il a vécu une vie difficile, mais il a rencontré Dieu. Je vais vous raconter ça très brièvement. Ce que voulait C.S. Lewis, c'était, il a dit, c'était la joie que je désirais. Il désirait la joie. Bon. Mais C.S. Lewis, c'était quelqu'un, en tout cas dans sa jeunesse, il a été victime de crise d'angoisse, il a été tenté par l'occultisme, et pendant longtemps, il a été athée. Mais il raconte dans le livre « Surpris par la joie », il raconte tout son parcours, et il raconte en particulier qu'en tant qu'intellectuel, il lisait des poésies, il écoutait de la musique, parce que pour lui, c'était une manière, c'était une manière d'atteindre la joie. C'était un sentiment esthétique, mais il s'est rendu compte que ce sentiment, quelque chose lui échappait et que ça restait superficiel et que finalement, il restait à la surface des choses. Alors évidemment, il n'était pas satisfait. Quelle que soit l'œuvre d'art en question, il avait du mal. Il avait du mal et il cherchait. Et finalement, d'une certaine manière, il se débattait avec lui-même. Il était confronté avec lui-même et il n'arrivait pas à ses fins. Donc il a vécu au XXe siècle et en 1929, il a rencontré Dieu, il a dit « Je cédais, j'admis que Dieu était Dieu. Je me suis mis à genoux et je priais. » Et écoutez bien cette phrase qu'il a prononcée, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, en tout cas il l'a écrit dans son livre « Surpris par la joie ». La dureté de Dieu est plus bienveillante que la douceur des hommes. La dureté de Dieu est plus bienveillante que la douceur des hommes. Bon. Donc, C.S. Lewis, il y a un livre d'ailleurs qui retrace, un film qui retrace tous ses combats. C.S. Lewis a rencontré Dieu. Et il a été surpris par la joie qui vient d'en haut. Je voudrais continuer à parler de nos combats et des combats de ceux qui nous sont proches. À travers la parole, dans Jean 16, 19, les versets 19 et puis 21, 22. Vous connaissez cette parole, Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je cite juste un extrait de ce que dit le Seigneur, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. » Et le verset 22, une première partie de ce verset dit, il s'adresse à ses disciples, il leur dit, « Vous êtes maintenant dans la douleur. » Donc les disciples sont tristes, ils sont accablés. La joie, leur joie est bien loin. Alors je voudrais donner un témoignage personnel arrivé à cette étape de ma prédication. Simplement, l'autre jour j'étais à Marseille chez mes parents et mon père est très âgé et ma mère s'occupe de lui du matin au soir, et vous savez ce que ça peut être de s'occuper d'une personne très âgée dans tous les détails de la vie quotidienne. Ma mère est encore jeune, et l'autre jour elle m'a dit, lundi j'ai failli exploser. Ça m'a frappé, puis le soir quand je parlais avec elle, elle m'a dit, tu vois hier soir j'ai eu une insomnie. Et elle m'a cité Ésaïe 30, verset 15. Elle m'a dit, toi, j'ai pris mon cahier et j'ai écrit ce verset qu'on connaît par cœur, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais évidemment, aujourd'hui, je fais le lien entre la joie que donne l'Éternel et votre force. Mais elle m'a dit ça dans un sourire, dans une forme de paix intérieure, même si il lui arrive d'être inquiète et d'être fatiguée. Mais j'ai senti là que, effectivement, c'était la force du Seigneur, c'était cette joie qui monte en nous, même au pire des difficultés, et que sa foi s'affermissait, et quelque part, comme on dit, sa foi lui permettait de tenir, comme on dit. La joie que donne l'Éternel, que lui donne l'Éternel, est sa force. Et à partir de là, on a pu prier ensemble, avec mon père aussi, on a pu prier ensemble pour remercier le Seigneur et pour se réjouir, justement, se réjouir, en deux mots, ensemble, quelles que soient les difficultés présentes, et bien sûr, en parlant de l'espérance que nous avons dans notre Seigneur. Et c'était un moment, pour moi en tout cas, un moment rarissime, un moment inouï avec mes parents, c'était un moment très rare, c'est rare qu'on vive ça. Et j'ai senti que, vraiment, ça venait d'en haut. Et quelque part, mon père, quelles que soient ses difficultés, il était touché, justement, par cette joie. Parce que je venais de lui dire aussi que on doit être dans la reconnaissance, quelles que soient nos difficultés. Quand on est valide, quand on peut encore marcher, quand on peut parler, quand on peut jouer, on peut se réjouir, on doit se réjouir, parce que notre Seigneur est là, notre Seigneur nous permet d'avancer. Bon. Alors je reprends le verset 22 de Jean 16, et je le paraphrase, si je puis me permettre. Et je dis, en pensant à tous ceux, dans nos familles, dans nos amis, tous ceux qui sont touchés, qui sont en ce moment dans la douleur, dans la solitude, dans l'accablement. Vous êtes actuellement dans la douleur, dit le Seigneur. Vous êtes actuellement dans la douleur, mais je ne vous oublierai pas, quelles que soient les circonstances de votre vie. Car nous sommes un, vous et moi. Et je pense évidemment à Jean 17. Je vous offre ma joie, et de façon telle que votre cœur en sera constamment rempli. Je vous offre ma joie. Et cette joie est unique. Personne ne pourra vous l'enlever. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Personne ne pourra vous l'enlever. Parfois, nous disons, la coupe est pleine. Et parfois, nous avons l'impression que la coupe est pleine de nos difficultés, de nos blocages, de nos impasses humaines. Et nous avons envie de mettre ce couvercle et de dire maintenant, c'est terminé. Or, le Seigneur nous dit, non, c'est pas terminé, je suis avec toi. Et justement, la coupe est pleine, mais la coupe déborde de la joie que je te donne. Parce que je t'ai donné ma vie pour que cette coupe déborde de joie. Ta coupe déborde de joie. Effectivement, la coupe est pleine. Et j'insiste sur le fait que c'est une joie unique, ce n'est pas une joie passagère, c'est une joie qui vient de loin. Il a donné son sang pour que je puisse vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, et que je puisse déborder de joie, d'amour, etc., de paix. Je voudrais qu'on puisse pousser des cris de joie ensemble. En tout cas, vous savez pourquoi on pousse des cris de joie. On peut pousser des cris de joie pour différentes raisons. J'en donne quelques-unes. Parce que Dieu est tout-puissant. Le Dieu que nous avons, le Dieu d'amour, est tout-puissant. Psaume 118, verset 15 et 16. Psaume 118, verset 15 et 16 nous dit... Bon, il y a différentes traductions dans la mienne, c'est ça. Un chant de triomphe et de délivrance s'élève dans les tentes des justes. La main de l'Éternel agit avec puissance. La main de l'Éternel est victorieuse. Et nous avons un deuxième trait, c'est l'abondance de Dieu, c'est sa générosité. David, dans le psaume 16, verset 11, dit « Tu me feras connaître les chemins de la vie. Deux points, abondance de joie en ta présence, bonheur éternel auprès de toi. Et le psaume 4, verset 8, toujours David, dit « Tu mets de la joie dans mon cœur, plus que les habitants n'en ont jamais, quand leur moisson abonde et que leur vin nouveau coule. » C'est l'image de la prospérité, c'est l'image de l'abondance. Dieu, ce qu'il nous donne à chaque fois, c'est de l'abondance, et là, en l'occurrence, c'est cette joie qui coule en nous, cette joie qui coule en nous. L'image que j'ai, c'est vraiment la plénitude que Dieu met en nous. Cette plénitude est jubilatoire. Et c'est ce bonheur qu'il nous donne en cadeau. Le psaume 119, verset 111. Psaume 119, verset 111. Et c'est une caractéristique du Seigneur, évidemment, qui est très importante. C'est un Dieu qui nous structure. On est structuré par le Seigneur, par sa parole. Tes décrets, tes commandements ou tes préceptes restent pour toujours mon bien précieux. Deux points. Ils font la joie de mon cœur. Point d'exclamation. Je suis très attentif à la ponctuation, je crois que c'est très important. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux. Ils font la joie de mon cœur. Et puis, évidemment, il y a le Seigneur Jésus qui est venu pour nous donner sa joie. Il nous donne sa joie constamment. Et comme le disait quelqu'un, la joie émanait de lui. Il était revêtu de cette joie, habité par cette joie. Et quelqu'un disait aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens autour de lui, enfin, à cette époque, ils allaient vers lui parce que c'était, ils étaient attirés par cette joie. C'était un de ses secrets, la joie du Seigneur. Et Jésus, c'est notre espérance vivante. Nous avons cette espérance qui est fondée, enfin notre espérance est fondée sur le Seigneur Jésus. Et vous connaissez cette image de l'encre, de l'encre. C'est notre encre qui est solide et ferme pour notre âme. Et l'espérance, c'est, ça nous permet de regarder au loin. Ça nous permet d'avancer, quelles que soient les souffrances, même de les dépasser. Ça nous permet de nous purifier. Vous connaissez cette parole, Matthieu 5, verset 8, qui dit « Heureux ceux et celles qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Puis dans le psaume 119, il est dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. » Et cette espérance, elle nous permet d'entrer dans la joie véritable, la joie du Seigneur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une joie qui n'a rien à voir avec les joies passagères qu'on peut ressentir de temps en temps, mais des joies évidemment qui ne sont pas durables. Quand j'ai préparé cette prédication, j'ai pensé à Bach, Jean-Sébastien Bach. Vous connaissez ce morceau, ce choral, « Jésus, que ma joie demeure ». Mais je m'interrogeais sur le titre « Jésus, virgule, que ma joie demeure ». Ouais. Il y a même un point d'exclamation, je pense, mais « Jésus, que ma joie demeure ». Alors, apparemment, le sens littéral, c'est pas, enfin, le sens littéral est différent. « Jésus restera toujours ma joie », point d'exclamation. « Jésus restera toujours ma joie », plein d'exclamation. Et il y a un mouvement dans le choral qui est intitulé, je vous le dis parce que ça me semble important, « Quel bonheur que Jésus soit avec moi ». Il y a un second mouvement qui est intitulé « Jésus demeure ma joie, point ». Consolation et sève de mon cœur, point. Consolation et sève de mon cœur. Jésus est la sève de mon cœur. Je trouve que c'est vraiment la sève qui monte, qui monte, qui monte. Mais avec lui, on n'a pas de crise cardiaque. Avec lui, on peut pousser des cris de joie. Une autre caractéristique qui nous pousse dans la joie, qui nous incite, qui nous entraîne dans la joie, c'est le livre de vie, ce qu'on appelle le livre de vie. C'est le fait que nos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre de vie. Luc 10, verset 20 dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit, « Réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans le ciel. » Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans le ciel. Dieu inscrit les noms de ceux qui lui sont fidèles dans le livre de vie. Je pense que c'est extraordinaire de savoir que nos noms sont inscrits dans ce livre. J'ai une prière maintenant, dans la continuité de ce que je viens de vous dire. C'est évidemment l'image qui me vient, c'est le fleuve de vie. Dieu nous demande d'entrer dans son fleuve. Et le fleuve de vie, c'est notamment c'est la pureté, c'est la puissance, mais c'est aussi la joie. Quand on est dans un fleuve, dans une eau pure, on est dans la joie. Et on a envie de se baigner, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'avancer dans le sens du courant, mais c'est un courant divin. Et vous connaissiez sans doute la religieuse Basile Ashling, qui était une religieuse allemande qui a vécu après la guerre et qui a reconstruit spirituellement je crois que c'était à Dresde notamment, ou dans d'autres villes allemandes, elle a reconstruit Darmstadt, oui. Par la foi et dans la joie. Juste cette courte prière de Basile Ashling. Ne regarde pas l'ombre autour de toi et en toi. Regarde à Jésus. La lumière qui se lève et qui, comme le soleil, veut t'attirer vers son royaume de lumière. Que nous puissions ce matin, effectivement, ne pas regarder à nous, à nos zones d'ombre, ou à nos difficultés, nos obstacles personnels, tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous empêche d'avancer, mais que nous puissions regarder à Jésus. Et concrètement, ça veut dire regarder à la lumière. Colette en parlait tout à l'heure, la lumière qui vient du Seigneur et qui se lève et qui veut nous attirer à elle, c'est le royaume de lumière. Que nous puissions avancer dans ce fleuve ensemble, en relation avec Dieu. De Corinthiens 13, verset 11, c'est Paul qui parle. Il y a 5 exhortations dans ce texte. Il y a 5 exhortations que je retiens et qui vont les unes avec les autres. On ne peut pas en enlever une, elles sont liées les unes aux autres. Et il dit, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Cinquièmement, vivez dans la paix. Alors, le Dieu d'amour et de joie sera avec vous. Non, pardon. Alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est ça. Maintenant, nous allons prier, Seigneur, pour ta parole. pour cette exhortation à la joie, cet hymne à la joie, Seigneur. Seigneur, bien sûr, au-delà de ce que j'ai pu dire, Seigneur, tu vas nous parler. Tu vas nous parler même, et bien sûr, une fois sortis d'ici, tu vas continuer à nous parler durant cette semaine, Seigneur. Pour que nous puissions aller au-delà de ce qui vient d'être dit. Avec nos familles, avec nos conjoints, avec nos collègues de travail, avec nos amis. Seigneur, que nous puissions avoir un comportement jubilatoire nous-mêmes. Que nous puissions être empreints de ta pureté, de ta sainteté, de ton amour, de ta paix. Et Seigneur, que nous puissions être convaincants, j'allais dire, de par notre attitude. Quelles que soient nos difficultés présentes, Seigneur, que ce soit des difficultés de santé, des difficultés familiales, professionnelles, quel que soit leur nom, Seigneur. Peut-être nous faisons-nous du souci pour un proche qui est malade. Peut-être sommes-nous dans l'attente d'un autre travail ou d'un travail tout court. Peut-être nous faisons-nous du souci pour nos pensées qui s'égarent parfois. Alors Seigneur, tu nous appelles ce matin à regarder à toi très concrètement, à nous fixer sur ta parole, sur tes promesses, sur la joie qui est déposée en nous. Simplement, il s'agit de la saisir, de saisir ta grâce. Et cette grâce que tu nous fais dans ce domaine, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux en nous, Seigneur, que tu veux davantage que nous puissions vivre de cette joie, Seigneur. Et je me réjouis personnellement, Seigneur, pour ce que j'ai pu partager avec mes parents. Parce que quand on vieillit, Seigneur, la vie n'est pas tellement jubilatoire, a priori. Mais pourtant, Seigneur, tu es là et tu leur as parlé. Tu parles aux vieillards aussi, Seigneur. Seigneur, merci parce que... Mais tu leur as parlé de manière, avec toute ta douceur et avec vraiment cette joie. Et ma mère l'a bien senti. Et je lui ai dit ce matin que je priais sur ce thème, que j'allais prêcher sur ce thème. Et elle m'a dit qu'elle était heureuse. Seigneur, même s'ils ne peuvent plus peut-être aller au culte maintenant, ils ne pourront plus se déplacer, mais Seigneur, tu viens à eux, tu te manifestes. Ils vont pouvoir se replonger dans ta parole, plus qu'ils ne le faisaient peut-être, mais ils vont pouvoir prier ensemble, ils vont pouvoir, Seigneur, comme tu nous appelles chacun, finalement à te redécouvrir, à redécouvrir aussi cette réalité de joie. Que nous refusions l'inquiétude, Seigneur, mais que nous plongeons, nous puissions nous immerger dans cette joie. Et c'est l'image qu'on vous a montrée là, des chutes du Niagara, de ce fleuve de vie. Dieu nous accueille dans ce fleuve de vie, dans cette chute. Mais c'est une chute divine, donc nous sommes entre de bonnes mains. Alors Seigneur, gloire à toi Seigneur, parce que tu nous invites. C'est plus qu'une invitation, c'est finalement une convocation à rentrer dans cette joie. Et c'est une convocation qui est merveilleuse, Seigneur, parce que c'est toi. Je pense que, Seigneur, que c'est un moment particulier que nous vivons là. Et tu nous appelles à beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis à relever, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Mais il y a aussi celui-là, simplement. C'est un défi agréable, rentrer dans ta joie. Parce que cette joie demeure en nous. Nous avons cette promesse. Elle demeure en nous pour toujours, pour toujours, pour toujours. Amen.